pareil. Alors, on va ouvrir la séance. Il est actuellement 20h03. La séance ordinaire débute maintenant. Et je recevrai une proposition pour l'ordre du jour. Avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Avez-vous des sujets que vous aimeriez inscrire au point affaires nouvelles ou affaires municipales? Tu surveilles, Daniel?
Oui.
OK. Sinon, je recevrai une proposition. Oui.
Avant l'adoption de l'ordre du jour, on aurait un point à rajouter à affaires municipales. C'est qu'on a reçu la facture de tricentrie là, pour la clause. Là.
OK. C'est rentré?
Oui, c'est rentré, puis le montant, il est de
31 000. Alors, dans affaires municipales, facture de tricentrie.
Oui.
Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres points? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Marco, Yves, merci beaucoup. Le mot de la préfète sera très court. Un couvre-feu à 9h30. Alors, on espère que vous ne serez pas trop sur la route trop tard avec le couvre-feu. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 20 janvier. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que c'est conforme à nos discussions?
Je propose.
André Paquette propose l'adoption. C'est appuyé de Bruno. Merci. Il n'y a pas de questions d'assistance. On n'a rien reçu de questions par courrier ou par courriel. Alors, on est rendu au point 6, suivi des grandes priorités de la MRC de Témiscamingue. Alors, projet Onimiki. Deux choses importantes à vous souligner. D'abord, l'étude exploratoire. On a eu une rencontre avec Hydro-Québec en janvier, qui nous ont présenté les particularités du réseau d'approvisionnement ici en région. Et on nous a soumis en même temps la possibilité de demander une étude exploratoire auprès d'Hydro-Québec. Le CA, la semaine suivante, a adopté la dépense, l'étude exploratoire, et demandé à Hydro-Québec, c'est 5 000 $ Et ça nous donne comme information les grands enjeux en relation avec les particularités du réseau ici en Abitibi-Témiscamingue. Par ailleurs, juste au Témiscamingue, par ailleurs, la semaine dernière, suite à l'annonce du projet Pouliat sur la très basse côte nord, on a eu des échanges avec le ministre des Affaires autochtones, le ministre au secrétariat des Affaires autochtones et le ministre régional, M. Pierre Dufour, concernant le projet Onimiki, considérant les annonces et les demandes qui sont la croissance de la demande américaine, considérant les opportunités actuelles, il y a des ministres qui s'activent. Et nous, on s'active également sur la consultation citoyenne et le protocole d'entente entre les communautés sur le projet Onimiki. Alors, on en est là actuellement dans ce projet-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Et comme Lynn l'a souligné lors de la rencontre du CA, les échanges qu'on a avec Hydro-Québec sont très… C'est des informations de haut calibre là, qu'on a avec eux. Il y a une très belle ouverture à vraiment nous donner l'information la plus juste possible. Point 6, il n'y avait pas de question, Daniel? OK. Point 6.2, suivi des grandes priorités, incinération, système d'incinération des déchets ultimes. Alors, le sujet a été largement discuté au niveau de la séance de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Il y a une proposition, une recommandation du comité CAGE à cet effet-là. En 9.3, et à la demande de plusieurs membres du comité CAGE et de plusieurs membres du conseil, le sujet sera traité ce soir, la résolution sera traitée ce soir. Questions, commentaires? Alors, on passe au 6.3, la proximité des services. Simplement pour mentionner qu'il y a eu une activité, il y a deux... La semaine passée, avec la MRC d'Autré, Il y a eu une activité sur le développement économique organisée par une MRC, la SADC d'une MRC d'Autré, et il y avait deux conférences au moment de cette activité-là sur les services de proximité. Comment accompagner et appuyer des services de proximité? Alors, c'est très pertinent et d'autant plus que c'est une priorité pour nous et que c'est l'information était très... C'était de l'information première main, mais qui correspondait à leur réalité à eux. Par contre, les consultants, les personnes qui étaient intervenantes dans cette conférence-là pourraient certainement être aussi consultées, contactées pour nos besoins à nous en matière de services de proximité. Donc, on a l'intention de se retourner un peu vers eux. L'autre élément, c'est par rapport au comité pour les communautés, les municipalités en voie de revitalisation. On a... Est-ce que le doodle est partagé? Je sais que moi, j'ai envoyé mes dates.
Non, pas okay. Encore.
On est en préparation pour une rencontre sur ce comité-là. C'est le FRR volet 4, si vous vous souvenez. Sur les services de proximité, ce sont les informations du jour. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. La question des services de proximité dans toutes nos municipalités est à l'ordre du jour actuellement, étant donné les annonces ici à la Verlachère-Andouillé, la fermeture de l'éventualité d'une fermeture de commerce dans le secteur Andouillé. Est-ce que tu veux en ajouter quelques mots, Daniel?
Moi, c'est sûr que là, Marie-Claire nous a annoncé qu'elle fermait sa station-service au début du mois de mars. C'est comme je dis à la radio, il y a quand même deux personnes qui sont intéressées possiblement à acheter. Là. Fait que là, on est en train de regarder ça. Aujourd'hui, on a eu aussi la Cour régionale coopérative régionale qui me dit « Avez-vous pas assez de faire une coopérative avec ça? » Fait qu'en tout cas, on n'est pas là pour l'instant. On va regarder, il y a deux personnes intéressées avec des projets. On va commencer par analyser les projets qui sont sur ma table et on verra ce qui va se passer. C'est sûr, comme je disais aux journalistes, le fait de fermer Andouillé va avoir beaucoup de conséquences parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là pour monter à Rouen et ainsi de suite. Si je prends Saint-Eugène, ils n'ont pas de station-service, Fuyerville n'a pas, il y en a beaucoup qui passent, qui arrêtent d'être là. Autant en revenant sur l'autre bord avec les motoneiges, hein, pour regarder le dossier sérieusement, voir si ça va se passer avec ça.
Les services marchands, les services de proximité, même marchands, deviennent une préoccupation des municipalités. C'est vrai que les coopératives, ça pourrait être une solution, mais il y a également d'autres types de propositions qui peuvent être mises de l'avant. Je fais un pouce un petit peu parce que vendredi dernier, Mathieu Lacombe, c'était vendredi dernier, je présidais une rencontre avec le ministre de la Famille qui s'occupe des services en milieu de garde. Et c'est un enjeu aussi pour une majorité de communautés rurales. Il y a plusieurs annonces de places en CPE qui ont été faites. Il y a plusieurs attributions de places en milieu de garde qui ont été annoncées, mais ça ne se réalise pas et on a perdu au Québec plus de 1000 places de garde en milieu familial parce que les exigences et la bureaucratie deviennent très lourdes pour les personnes qui assument des services en milieu de garde. Et les propositions qui ont été mises de l'avant la semaine passée, c'était vraiment... Il y a des municipalités qui veulent s'investir dans ce genre de services-là, notamment par la mise à la disposition des services de garde de locaux dans des édifices municipaux ou dans des édifices acquis par la municipalité. Alors, dans le secteur des services de garde, comme dans d'autres secteurs, les municipalités s'occupent souvent des services de garde après l'école. Les municipalités sont responsables des camps de jour l'été. Il y a tout un lien à faire avec les différents services de loisirs et la préoccupation pour les populations qu'on a au niveau des services de garde. On a mis de l'avant plusieurs idées la semaine passée. Il y avait des gens de plusieurs régions du Québec qui participaient à cette rencontre-là. Je pense que le ministre a annoncé dès cette semaine qu'il voulait aller vers un livre blanc à l'automne. Il voulait faire des choses, mais dès maintenant, on a besoin de place de garderie. C'est une contrainte, ça devient une contrainte importante à l'accès à l'emploi. Dans des milieux, il y a des usines qui ne se développent pas ou il y a des agrandissements de secteurs d'activités économiques qui ne se développent pas en raison du manque de garderies. Alors, il faut vraiment réfléchir à l'implication du milieu municipal. C'est aussi un service de proximité sur lequel on peut agir. Luc, là-dessus?
Pour le service en lieu là, de proximité, là, il y a eu deux acheteurs potentiels.
Deux dossiers qui se préparent.
J'espère que nos institutions financières ne mettront pas. Non, mais ça allait arriver au Témiscamingue. On ne se cachera pas, là. Les institutions financières passent dans le secteur centre. Ils ne passent plus bien à l'extérieur pour n'importe quel type de commerce. Ça, il va falloir que je pense que la MRC va falloir qu'elle mette un œil là-dessus. Il y a peut-être des gens qui ont un bon potentiel. Sûrement que ce service-là en ligne est plus abordable pour les personnes qui veulent le faire plutôt qu'aller le faire à la secteur centre, que le prix monte beaucoup. Là. Les institutions financières passent, ils se restreignent à la centre. C'est le même. Là. Essayer de pas ouvrir un commerce dans l'Est, là, dans la voie bien de la misère, et c'est un fait au tennis quand même.
Mande-la Alexandre, c'est 100 000 pièces de plus.
Non, mais regardez, là, fait que si on a une chance d'aider, accompagner quelqu'un qui veut garder un service en ligne, il va falloir être en allié. Mais il va falloir avoir les bonnes données, les institutions financières, puis là, nommer aucune institution.
OK, Daniel? Carmel, merci.
Je veux juste savoir, est-ce qu'on connaît les chiffres ici là, par rapport aux garderies dont tu parlais tantôt? Est-ce qu'on a un manque de places identifiées ici sur notre territoire?
Au Témiscamingue, oui. On parle d'une dizaine de places. En Abitibi-Témiscamingue, essentiellement Rouyn-Val-d'Or, on parle de, il manquerait 400 places en garderie.
Chez nous,
puis les chiffres exacts là, il y a eu en Abitibi-Témiscamingue, il y a eu 240 places attribuées. Total de places en réalisation, 212 total de places réalisées dans les CPE. Une place en CPE coûte à peu près 8 500 $ à faire. Une place en milieu de garde, en ce qu'ils appellent les RSG, les réseaux des services de garde, en milieu familial, c'est à peu près 5 000 $.
Là, je voudrais revenir sur les services de proximité.
On est toujours là-dedans?
La possibilité d'embaucher des consultants. Moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faudrait que soit développé, c'est de quelle façon la municipalité peut venir en aide aussi à ça. Parce que là aussi, c'est encadré. C'est pas si facile que ça de
non, exact.
Tu sais, il faut contourner, il faut faire les coins ronds si on veut, si on veut aller de l'avant là-dedans. Moi, je pense qu'il y a matière à regarder comme municipalité. Qu'est-ce qui est en notre pouvoir pour venir en aide à les problèmes de proximité? C'est majeur dans toutes les missions. C'est une question de survie des villages, à mon avis.
Qu'est-ce que tu viens de dire là, partir d'une station de gaz à Béarn, parce que le projet il était là, assez étudié longtemps, des tanks dentaires, oubliez ça. Il n'y a aucune rentabilité si tu vends juste du gaz. Là. Tu ne peux pas juste payer le courant. Je ne paye même pas le courant. Ça prend des tanks hors terre. Et hors terre, là, c'est à peu près 2 cents et quart le litre de profit. Ça paye le courant et le dénervement. Point.
Oui.
Fait que si tu ne vends pas d'autre chose, là, c'est ça que tu es.
Alexandre?
Oui. Pour avoir épluché quand même pas mal le dossier là, sur qu'est-ce qu'une municipalité peut faire, là, il y a évidemment là, l'article 92.1 là, qui est quand même assez large sur qu'est-ce qu'une municipalité peut faire pour aider une entreprise, là, pourvu que ce ne soit pas une entreprise qui soit située dans une résidence, dans un immeuble, mettons, dans une maison personnelle. Là. Puis, une autre chose que j'ai appris qui m'a étonné, surtout pour les stations de gaz puis différents commerces, là, c'est dans la loi sur les compétences municipales, on permet à une municipalité de faire une, de cautionner une entreprise, par exemple, qui offre, je pense à l'article 91, si je me rappelle bien, là, mais pour toute initiative de bien-être de la population. Fait que, tu sais, il y a ce terme-là. Tu sais, par exemple, nous autres, on a cautionné l'entreprise qui opère le marché public pour l'aspect d'approvisionnement de l'essence, mais on a vérifié ça avec notre avocat qu'on connaît tous, là. Puis effectivement, c'est quand même des points assez larges qu'on peut utiliser le bien-être de la population. Je pense que si on y voit les services de proximité, ça donne quand même de la latitude là, aux municipalités.
D'autres questions? Monsieur Drouin?
Je ne sais pas si ça rentre dans les services de proximité, mais ma question s'adressait encore à Monsieur Binette. Avant les fêtes, il parlait qu'il y aurait un satellite qui serait dans les airs là, entre le 42e parallèle puis le 50e. Il était supposé avoir un projet pilote. Est-ce que c'est commencé? Est-ce que ça marche? C'est commencé?
Starlink, c'est commencé. Nous, on a une rencontre demain avec quelqu'un pour Internet. Mais as-tu pu participer aux essais pilotes sur Starlink?
Il y a beaucoup d'essais pilotes ailleurs au Canada, pas encore au Québec, là. Avec des résultats là, qui sont vraiment très intéressants. Moi, je me suis inscrit. En fait, je me suis réinscrit récemment parce qu'ils avaient changé leur page d'inscription. Puis, j'ai même déjà pu payer mon premier mois de connexion avec Starlink. Là. Puis, ils disent que la livraison, le système devrait être fonctionnel dans mon coin entre la mi-2021 et la fin 2021. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Là, mais dès que j'aurai du... Moi, c'est sûr, je vais l'essayer, là, puis je vais vous tenir au courant là, dès que ça fonctionne. Mais si vous voulez vous inscrire, déjà, starlink.com, puis vous pouvez vous inscrire.
Starlink.com.
Comme le matin. OK, oui, merci.
Votre
Sterling.
Question?
Sterling.
non, je connais.
Alors, on passe au suivi d'enjeux ponctuels. Alors, gestion de la COVID, pour vous informer... Et vous remercier tout le monde de votre contribution pour la planification pour la prochaine semaine de relâche scolaire où il y aura une proposition d'activité vraiment intéressante pour la population. Simplement vous rappeler que dans les dernières communications du gouvernement, le premier ministre annonçait qu'on peut louer des chalets. On vous invite à le faire dans votre propre région. Et on vous invite à rester en bulle familiale. Il y a un élément important, il y avait beaucoup de préoccupations au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et de façon assez curieuse, les gens louent des chalets dans leur propre région. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les chalets sont à peu près tous loués pour la semaine de relâche scolaire. Et 92 % des locations sont pour des personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour des familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, dans ce contexte-là, vous avez aussi entendu qu'il n'y aura pas de barrage routier. On invite les gens à ne pas se déplacer d'une région à l'autre, mais il n'y aura pas de barrage routier, il n'y aura pas de blocus. Il y aura par contre beaucoup de surveillance dans les résidences privées et le respect des couvre-feux. Alors, d'où l'importance d'avoir votre lettre pour retourner chez vous ce soir sur le couvre-feu. Des questions là-dessus? Des questions, commentaires? Sur la gestion de la COVID, sur la vaccination, on a parlé ça avance. On est en train de discuter Céline qui est avec, qui collabore avec le CISAT pour trouver des lieux de vaccination. On cherche le lieu qui va être le plus central possible. On a actuellement des discussions avec Lorainville. Mais c'est. Lynn est en discussion avec le CISAP pour faciliter leur... Il y aura aussi un point de vaccination à Témiscamingue. Et c'est Lynn Gironde qui est en discussion.
Non, pour Témiscamingue, le CISAP va faire affaire directement avec la ville.
Oui, mais il y aura un point satellite de vaccination à Témiscamingue pour le sud du territoire. Là, c'est eux autres qui font affaire direct avec la ville. OK, parfait.
Oui.
Excellent. Donc, des questions, commentaires là-dessus? Alors, je vais passer la parole à Daniel sur le complexe des eaux profondes. Daniel.
Okay. Bon, vous avez fait un petit rapport là, que vous avez tous envoyé un peu pour qu'est-ce qu'il y a eu de fait dans le moule. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus ou pas. C'est sûr que le dossier avance. C'était un dossier que les gens pensaient ceux autour du comité qui pensaient qu'on aurait réglé en deux semaines à peu près, mais on s'aperçoit qu'il y a pas mal de vrai à faire autour de ça aussi. Le dossier avance, comme vous disiez, on a fait le dépôt d'un premier projet de budget pour les coûts d'opération annuelle. On a fait on est en train surtout d'essayer d'élaborer des grandes lignes pour une politique de visibilité.
Question pour Daniel là-dessus?
Daniel, quand tu parles de...
Vas-y, Carmen, je regardais, moi, c'est parce que Daniel parlait, je regardais l'écran. Excuse, vas-y.
C'est comme
ça chez
nous, je m'adressais à... par rapport au budget annuel des coûts d'opération, Daniel, est-ce que c'est quelque chose...
Pour l'instant, là, c'est sûr qu'on a leur travail. On a sorti à peu près le pire scénario qu'il pouvait y avoir, tu sais, telle affaire, on est en train de regarder. Là, on leur travaille encore. On a fait un scénario comme si on engageait du monde, là, puis on emplissait tous les bureaux, puis on mettait des personnes dans la piscine, donc c'est pas si bien que
ça.
Ça
n'a pas de bon sens.
C'est sûr que ça dépassait un peu ce qu'on s'attendait. Là, on leur travaille sur un autre bord en mettant du bénévolat.
Est-ce que vous avez tenu compte des chiffres que vous ont fait parvenir la municipalité de...
Le Témiscamingue, c'est là, on est en train de rentrer ces chiffres-là là-dedans pour voir ce qui va se passer. C'est certain qu'il y a des inconnus un peu, comme comment ça va coûter chauffer ça, comment ça va coûter cette affaire-là. On essaie de se baser sur des piscines qui s'est faites dans le sud de la province dernièrement. On se bat un peu, on va se baser ces chiffres que Témiscamingue nous ont donnés aussi. On n'est pas arrêté encore au final. C'est pour ça que je dis que c'est le dépôt d'un premier projet de budget. Il faut le retravailler. Ça va avec ça.
Et vous êtes toujours avec un projet de 10 millions?
On est toujours encore avec un projet de 10 millions. Là, cette semaine, on a eu un autre. On avait toujours basé sur la piscine de Pontiac, là, ben là, le Pontiac ont été refusés, eux autres, dans le projet, et Mme Toller a dit qu'elle était capable d'une piscine à 5 millions. Donc là, on est en train de regarder ça, personne ne crée à ça.
Engagez-la, elle!
Ouais. Mais en tout cas, ils ont été refusés dans le projet, puis si.
Mais ils demandaient combien? Ils demandaient quoi?
Eux autres, c'était une piscine qui avait 11,8 millions.
11,8, mais... Il demandait, parce qu'il y avait beaucoup d'autres subventions qui avaient été cherchées ailleurs. Il demandait combien? C'était 3 millions, je pense. Hein?
Non, il voulait aller sur le projet de 66 % qui ont été refusés. Elle a fait une entrevue, elle, qui est sur le site Internet. Là. Elle a fait une entrevue et elle dit qu'elle rencontre ses architectes et elle pense être capable de descendre à 5 millions. On verra ce qui se fera là. Nous autres, on tient toujours encore le 10 millions. 10 millions qui s'y met. Il s'en est fait à certains endroits dans ces montants-là.
D'autres questions pour Daniel? Alors, on passe.
Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut en monter un projet pour en mettre un sur la table aussi. Même si on le mettrait sur une tablette pour. Un petit coup de temps, là, parce que là, on s'aperçoit que quand les appels d'offres pour les subventions sortent, on est jamais prêt. Mais on va se monter un projet à un moment donné. Puis,
Investir d'avance,
c'est ça qu'on est en train de regarder un peu. On discute le test du 10 millions, comment on va le financer et ainsi de suite. Fait que moi, je me dis, montons le projet, puis après ça, on s'assoira avec les municipalités, puis on regardera jusqu'où on peut aller. Mais il faut quand même rester autour.
Ça va pour tout le monde? Ça va aussi, oui. Alors, on continue. Pont du ruisseau l'Africain. On a partagé les dernières informations plus sensibles lors de la séance de travail. Simplement mentionner qu'on est toujours en discussion et très actif sur le dossier pour la suite des choses et pour essayer d'alléger la circulation dans la ville-mairie, Lorainville et Béarn du camionnage lourd. Question, commentaire là-dessus? Monsieur...
Qu'on a rencontré, moi et puis Luc, puis le propriétaire des terrains. Il est propriétaire de l'autre terrain, le bord du pont aussi. Ce serait pas plus facile de passer par là. Il disait que M. de Béarn, M. Bourgault, il disait qu'il y avait plus long de chemin à faire, mais il n'aura pas besoin d'aménager rien à l'éco-centre. Peut-être l'argent qu'on sauverait, on pourrait mettre tout de bord. Je ne sais pas, il n'a pas checké rien de moi, mais on parlait de ça.
Ça serait ça 101, moi.
Et on sortirait sur la 101. L'enjeu de cette voie-là, qui était un peu plus longue, c'était la sortie sur la 101, ce que ne souhaite pas le ministère des Transports.
OK, on ne peut pas sortir d'un côté comme l'autre.
Non, c'est ça. Mais de toute façon, au moment où on se parle, il n'y a pas de go sur un projet qui est donné, fait que ça peut revenir sur la table de travail.
Mais là, il va falloir que tu fasses affaire avec deux propriétaires.
À ce moment-là, oui. Mais c'est parce qu'on...
Si tu veux m'attirer jusqu'au bout, là, tu vois.
Ça va aller? Merci, les amis. Alors, le point communication stratégique, on avait mis un point de décision, mais c'est plutôt un point d'information sur les discussions qui sont en cours actuellement avec une firme. À la recommandation que vous aviez fait, que le conseil a fait en décembre, on est en discussion avec la firme Terracom pour obtenir une proposition pour nos communications stratégiques qui vont porter essentiellement sur les communications politiques et économiques pour positionner le Témiscamingue. Alors, on vous tient informé dès que ça évolue de ce côté-là. Je vous informe, je vous rassure aussi que le comité administratif est très attentif au suivi sur ce dossier-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Questions, commentaires? Je continue de suivre. Alors, sinon, on passe au point 9, gestion des matières résiduelles. Alors, Cathy, le 9.1, rapport d'activité.
6.
Excusez, là. Attraction et tourisme, excusez. Attraction et tourisme, je suis désolée. Je n'avais pas la bonne version. octroi d'un contrat pour un mandat de relations publiques. Catherine.
Et allô, tout le monde.
Parle fort, Catherine, s'il te plaît.
C'est ça, je commence pas à enrouer, on dirait. J'ai froid, je rappelle. C'est ça, dans le fond, tout le monde, je viens aujourd'hui présenter le point au niveau d'un contrat en relations publiques avec la firme Canidé. C'est un contrat au montant de 24 250 $. Il s'agit en fait de se faire accompagner au niveau de nos relations de presse, autant pour mon mandat à moi qui est d'attraction de nouveaux résidents que le mandat d'Élisande Rivard en agent de tourisme. Donc, c'est ça, fait que le montant comprend vraiment des relations de presse pour l'année pour ces deux mandats-là. Pourquoi on veut donner ce contrat-là, en fait, c'est que, évidemment... C'est tout comme... c'est ça. Pourquoi on veut donner ce contrat-là? En fait, c'est parce que, évidemment, on veut se faire connaître, on veut être positionné dans les médias nationaux, on veut continuer nos efforts à ce sujet-là. Puis, évidemment, on ne peut pas le faire sans travailler par en arrière avec des gens qui, eux, ont les contacts des journalistes pour les différents médias qu'on souhaiterait. Et donc, c'est pourquoi on veut que Canidé nous accompagne là-dedans. Nos objectifs, on les connaît, on sait comment on doit rayonner, mais on n'a pas les contacts pour se rendre jusqu'à ces médias-là. Donc, eux sont vraiment spécialisés dans ça. Et ils ont déjà plusieurs idées pour nous aussi. On a déjà travaillé avec cette firme-là par le passé lors du lancement de l'image de marque le 27 mars 2019. Ils nous avaient fait paraître, entre autres, dans la presse à ce moment-là. On avait aussi fait la Bonne Nouvelle TVA sur les ondes de Salut Bonjour. Et dans les affaires aussi. Donc, ça nous avait vraiment aidé, ça avait donné vraiment un coup d'envoi au lancement de notre identité visuelle à ce moment-là, et ça, c'est grâce à Canidé, en fait. Ensuite, vous avez vu qu'il y a des voyages de presse. Le gros montant, la grosse partie de l'offre, en fait, c'est au niveau des voyages de presse. Pour que les gens nous connaissent, on veut les faire venir sur le terrain. C'est bien de leur envoyer des images à distance, mais tant que tu n'as pas marché le territoire, tu ne comprends pas nécessairement jusqu'au bout. Donc, on veut que cet été, en fait, c'est un momentum parfait en plus en ce moment, que 5 voyages de presse aient lieu et eux vont nous aider à coordonner ça. Il y a déjà des discussions avec le journal de Le Métro, entre autres, et le journal de Montréal à ce sujet-là. Donc, ça comprend évidemment la coordination de ces voyages-là. Ça comprend aussi un montant pour la rémunération des influenceurs. Par exemple, si on voulait faire venir des influenceurs dans l'été, Il y a un 7 000 qui est prévu dans ce budget-là pour ça. Et vous avez vu également que le guide graphique, ça, c'est vraiment plus technique, mais c'est pour qu'on sache comment s'adresser aux touristes, parce qu'on sait, avec notre image de marque et le symbole, Témiscamingue, là où on vit, parce que quand on s'adresse à un futur résident, c'est vraiment pas, on ne va pas lui parler des mêmes choses, on ne va pas l'intéresser de la même façon que si on s'adresse à un touriste. Et cette subtilité-là, on veut avoir des experts pour nous accompagner là-dedans, donc eux vont être, vont devoir aussi créer ce guide graphique-là qui va nous aider ensuite avec tous les visuels qui seront créés dans le cadre de, par exemple, la page Facebook de Tourisme Témiscamingue, le site web de Tourisme Témiscamingue. Donc, à divers égards, là, ça va nous aider à garder une certaine cohérence entre les deux mandats, parler aux bonnes personnes de la bonne façon, puis en faisant en toute authenticité comme on le fait là, depuis le début de la stratégie. Donc, voilà. Fait que, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Question pour Catherine.
Quand ils nous disent là, c'est 24 250, mais sur un projet évalué à 40 000, OK.
Sur un projet évalué à 40 000?
Oui, c'est ça qu'on a dans la résolution. On dit qu'on devrait donner ça en mandat en tourisme au montant de 24 250 taxes en su dans le budget stratégie d'attraction, développement de projet évalué à 40 000 $.
Ça doit être
c'est le poste budgétaire.
C'est le poste budgétaire. Oui, c'est pour démontrer en fait que ça a déjà été budgété par le passé dans ce qu'on avait pris.
Oui, d'accord.
D'autres questions? Guy, tu as une question? Guy Abel, tu as une question?
Excusez-moi, je n'avais pas allumé mon micro. Okay. Oui, j'ai pris connaissance du document. Je trouve ça très intéressant. Puis, moi, je suis prêt à en faire la proposition.
Merci. Alors, c'est proposé par Guy Abel, s'appuyé de Lynn H. Tout le monde est pour?